France Inter. Le 18-20, Fabienne Saintès.
Le CNRS a 80 ans, bravo. Il reste la proue, le navire amiral de la recherche française, et nous sommes toujours une nation scientifique de premier plan. La France, ces 80 dernières années, c'est 23 prix Nobel, dont un d'ailleurs est autour de cette table, et de nombreuses autres récompenses. Et pourtant, la recherche crie famine. Elle le crie depuis longtemps. La part de la recherche dans le PIB est quasiment stagnante. Savez-vous que le plus souvent, avant de chercher dans sa spécialité, un chercheur cherche de l'argent pour financer ce qu'il va chercher, ce qui est un comble. En France, on demande à voir quand ailleurs, parfois, on demande on paye pour voir. C'est une phrase que j'ai piquée à Sophie Bécherel et que j'ai mis dans le mauvais sens, mais continuons quand même. On aime bien aussi rallier les chercheurs en leur demandant ce qu'ils ont trouvé, quand précisément c'est le temps long, et même le temps très long, qui est celui de la recherche fondamentale. Quels sont les débouchés pour un jeune chercheur dans, après ses années d'études et sa thèse? Le plus souvent, c'est le confort d'un laboratoire dans une université hors de France qui paiera presque ou plus du double, on y viendra, et qui aura peut-être même une meilleure puissance de feu après. Il est sorti des choses d'un rendez-vous hier entre Emmanuel Macron et 80 chercheurs. La future loi de programmation pluriannuelle de la recherche est sur les rails, même si elle a pris du retard, on en parlera. Le président n'a donné aucun chiffre. Nos invités, eux, ont peut-être des sommes à suggérer. Emmanuel Macron, en tout cas, a aussi parlé d'investissements nécessaires dans la recherche publique parce que c'est un choix de souveraineté. Il est bien question de ça, en effet, quand on parle de recherche, de souveraineté, d'enjeux de société également. Et on en parle ensemble ce soir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et comme vous le savez, donc pas d'appel ce soir. Vous pouvez quand même envoyer vos questions au 01 45 24 7000. Nous les lirons à l'antenne. Vous êtes déjà très nombreux à nous en avoir envoyé sur franceinter.fr. Je vais commencer par un témoignage parce qu'il y en a beaucoup. Je vous présenterai nos invités juste après. Voici Hélène, dont la fille est doctorante et le gendre est doctorant. Ils sont dans de complexes reconversions, nous explique-t-elle. Ma fille va devenir instit et mon gendre informaticien. Ils ont cherché des financements, ils se sont battus mais ne veulent pas attendre plus de 30 ans pour être titularisé. Quand l'État décidera-t-il à reconnaître les diplômes de recherche de master à leur juste valeur, alors qu'il est du même niveau que le diplôme BAC plus 5 ingénieur? Il y en a beaucoup des comme ça et on y reviendra. Ce sera le démarrage de cette discussion entre nous. Antoine Petit est là ce soir, bonsoir. Vous êtes président directeur général du CNRS. Serge Haroche est là également, bonsoir. Professeur au Collège de France, médaille d'or du CNRS en 2009. Vous êtes prix Nobel de physique en 2012. Raphaël Rodriguez, bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, vous aussi. Vous dirigez l'équipe chimie et biologie du cancer à l'Institut Curie. Vous êtes le prix 2019 Tetrahedron Young Investor Award, c'est ça?
C'est ça,
voilà.
Bonsoir.
Merci, bonsoir. Et Sophie Bécherel est là, journaliste scientifique de France Inter. Vous n'avez rien gagné, Sophie, en ce qui vous concerne. Moi, je voudrais qu'on revienne donc sur ce témoignage d'Hélène qui dit « Moi, ma fille et mon gendre ont jeté l'éponge, en fait, parce que c'est trop compliqué, parce que au fond, trop de précarité. Je vais commencer avec vous, Antoine Petit, peut-être le directeur général du CNRS, parce qu'après tout, le Graal, quand on est chercheur, c'est d'entrer au CNRS. Des Hélène, il doit y en avoir beaucoup, en fait, de ces jeunes chercheurs.
Oui, il faut accepter que la recherche est une activité élitiste, où il n'y a pas de la place pour tout le monde. Parmi tous les docteurs, y compris, il y a des gens qui ne vont pas aller dans la recherche publique. Et c'est bien, je pense que la place du doctorat en France n'est pas reconnue à son juste niveau. Et il faut qu'il y ait plus docteurs dans l'ensemble des couches de la société. Et donc, on ne peut pas imaginer un système dans lequel tous les gens qui vont commencer un doctorat vont finir au CNRS. Ça n'aurait pas de sens. Donc je pense qu'il faut raison garder et faire en sorte que les docteurs aillent au CNRS pour certains, aillent à l'université pour d'autres, mais aillent aussi dans l'industrie et aillent de manière générale dans la société, dans l'ensemble des couches de la société.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de gens qui veulent aller dans cette direction-là et qui ne sont pas faits pour? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de débouchés? C'est quoi, au fond, pour que ces deux jeunes gens se disent « Moi, j'ai aucune chance d'être titularisé avant d'avoir 30 ans, donc j'y vais plus, en fait ».
Je pense qu'il y a plusieurs sujets en un. D'abord, c'est vrai que le nombre de doctorants a diminué de façon assez significative au cours des dernières années. Et d'une certaine façon, si les gens ne sont pas animés par une passion suffisante, c'est mieux qu'ils se décident avant de commencer une thèse, s'ils ont envie de le faire. Après, oui, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais encore une fois, je ne trouve pas ça anormal. Je veux dire, c'est un exercice qui est dans lequel nous recrutons au CNRS parmi les meilleures chercheuses et chercheurs au monde. Plus de 30% chaque année sont recrutés venant en dehors de France. Il faut accepter ça.
Serge Haroche, vous voyez.
Ce que je veux dire, c'est que
Une carrière de chercheur ne peut pas commencer avec un poste de titularisation avant 30 ans. Dans aucun pays au monde, ça n'est fait. En général, ça commence par des stages de post-doctorant dans un laboratoire. Donc c'est plutôt une position qui est intermédiaire entre celle d'un doctorant et d'un chercheur titularisé. Et ensuite, à partir de la trentaine, on peut candidater à un poste. Et en fait, le CNRS, est quand même plus favorable aux chercheurs que dans la plupart des institutions étrangères. À l'étranger, on n'est pas titularisé tout de suite. On est mis sur une position dite tenure track, c'est une position d'attente de titularisation. On demande aux chercheurs de faire ses preuves avant d'être titularisé. Et la titularisation véritable n'arrive souvent qu'autour de la quarantaine.
Moi, ce que je comprends de ce mail, Sophie Bécherel, j'ai vu que vous vouliez intervenir, c'est pas seulement l'idée d'être titularisé mordicus, c'est aussi de pouvoir vivre au fond.
Et de trouver une place.
Et de trouver une place du temps passé et de l'investissement pris dans des études. Oui. C'est aussi ça que je comprends dans ce genre de mail.
Oui. Je crois qu'il faut une thèse et il faut essayer de trouver une position de post-doc, de post-doctorant à l'étranger ou en France. Et ce sont des postes qui sont précaires, effectivement, mais c'est bien, c'est la façon dont le système, que le système utilise pour essayer de dégager l'excellence.
Sophie Bécherel.
Raphaël Rodriguez, qui est ici, représente une génération plus jeune de chercheurs. Vous étiez hier soir avec Emmanuel Macron et vous avez souhaité insister sur le salaire parce que vous avez fait ce parcours dont parle Serge Haroche, de post-doc, vous avez été embauché à Cambridge et vous avez démissionné pour revenir en France. Est-ce qu'aujourd'hui vous le regrettez? Est-ce que vous en êtes heureux?
Et surtout, est-ce que c'est le parcours obligé, en fait, aller chercher quelque chose à Cambridge pour pouvoir revenir ou pas?
Je pense que c'est important effectivement d'avoir fait un post-doc à l'étranger, dans la mesure du possible dans un pays anglo-saxon, parce que c'est une langue qui domine notre discipline, donc il faut pouvoir maîtriser l'anglais, aussi bien parler que écrire. Et puis je pense qu'il y a une manière de penser dans les autres pays, de parler des langages différents qui sont différentes. Et en voyageant, on s'enrichit de manières de travailler différentes, et je pense que c'est absolument indispensable.
Après, jeune chercheur que vous êtes, est-ce que c'est un parcours du combattant de démarrer, au fond? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on peut citer là? Il y en aura peut-être d'autres ou pas du tout?
Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai fait des choix. Je pense que j'ai pris des risques. Et je pense que c'est essentiel. J'ai pas le sentiment que tout le monde a envie de prendre des risques nécessairement.
C'est quoi, prendre des risques?
Prendre des risques, c'est potentiellement renoncer à un meilleur salaire parce qu'on a à cœur de faire un projet. Un projet qui est ambitieux, un projet où on sait qu'il ne va pas marcher sur 5 ans, qu'il ne va pas marcher sur 7 ans. Et je pense que l'échec, c'est absolument indispensable et c'est essentiel au succès sur la durée. Et ça, je pense que c'est une culture plus anglo-saxonne qu'une culture française. Donc moi, c'est le constat que je fais. Après, pour rebondir sur ce que disait Antoine Petit, moi, je suis d'accord que rentrer au CNRS, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je fais quand même un constat qui est inquiétant, c'est que c'est pas nécessairement les meilleurs chercheurs qui rentrent toujours au CNRS. Et j'ai un certain nombre de collègues, de jeunes qui ont baissé les bras par manque d'énergie et par agacement d'un système qu'ils comprennent pas. Alors que c'est des gens qui m'ont impressionné en sciences et qui m'ont impressionné pendant leur thèse et leur post-doc. Et ils sont simplement fatigués, ils baissent les bras à un moment où c'est clé pour eux.
Et un système qu'ils comprennent pas, pardon, ça veut dire quoi, en fait?
Un système qu'ils comprennent pas, en ce sens où, quand on fait des études à l'université, c'est long. Quand on fait une thèse, c'est pas des salaires non plus qui sont énormes, donc ça prend du temps. Et manifestement, les gens qui passent suffisamment de temps justement pour faire leur thèse, naturellement, ils espèrent avoir un poste. Et je pense qu'on leur explique pas vraiment la réalité du terrain. On leur explique pas quand on commence à l'université en DEUG ou en master ou autre que ça va être en avant, que ça va être ultra compétitif, qu'il va y en avoir 1 sur 200 qui va avoir une bourse de thèse, que sur les 10 thésards, il va y en avoir 2 qui vont entrer au CNRS. Et je pense que si on disait ça aux gens avant.
Donc il y a une espèce de fantasme au fond, peut-être, dont il faudrait un peu.
Je pense qu'il n'existait pas avant. Je pense qu'avant, les conditions étaient différentes. Maintenant, l'autre constat qui est un petit peu alarmant que je fais, qui est inquiétant pour moi, c'est que les étudiants de thèse que je vois aujourd'hui, que j'ai pu voir dans d'autres laboratoires, ils ont un état d'esprit qui est quand même assez différent de celui que je pouvais avoir avec mes collègues en 2002, donc ça fait presque 20 ans. Et les efforts qu'il faut déployer pour faire de la recherche de pointe et pour avoir des résultats.
Tu veux dire qu'ils sont plus impatients, c'est ça que vous dites, en fait?
Non, c'est que la recherche, c'est devenu extrêmement compétitif. Il faut publier premier ou sinon, on publie pas du tout. Donc, si vous mettez 2 millions d'euros dans une recherche et que finalement, vous êtes second, vous avez gaspillé 2 millions d'euros. Donc, pour être premier, il faut travailler plus dur et c'est pas 39 heures par semaine. Et donc, voilà.
Serge Roche.
Oui, je pense qu'il faut donner des chiffres concrets. Les salaires des jeunes chercheurs, ceux qui sont engagés au CNRS, sont absolument incroyables. On est, après 10 ans après le bac, les salaires tournent autour de 2000 euros par mois. Et pour vivre, en particulier à Paris, qui est l'endroit où une grande partie de la recherche se fait en France, c'est extrêmement difficile, surtout si on a une famille. Mmh. Et ces salaires-là, ils sont facilement la moitié de ceux qu'on trouve dans les institutions étrangères.
C'est la question que j'allais vous poser. La différence, c'est quoi? Est-ce que c'est du simple au double?
Dans certains pays, c'est plus du simple au triple que du simple au double. En moyenne, je crois que la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire la moyenne générale, les salaires sont de 67% au-dessous. Mais cette moyenne couvre des disparités très grandes dans des grands instituts de recherche, à l'ETH, à Lausanne, à Zurich. Les salaires des chercheurs débutants sont entre le double et le triple de ceux qu'on donne en France.
Et c'est pour ça que Paul de Tarbes nous demande si les doctorants ne peuvent pas, pour compenser leurs faibles revenus au CNRS, donner des cours à l'université comme chargé de travaux, etc. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui le font. Puis après, il y a des choses qui sont parfois évidemment très chronophages. J'ai vu que vous vouliez réagir, Antoine Petit, je vous en prie.
Oui, d'abord, pour être très précis, le salaire d'un chargé de recherche qui a donc sa thèse plus un post-doc qui a probablement duré 2 ou 3 ans, c'est de l'ordre de 2600 euros brut par mois, donc brut, hein, donc c'est clair que c'est pas énorme. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que un élément qui est différenciant entre les pays, c'est aussi ce qu'on appelle l'environnement de travail, le package. Et ça, d'une certaine façon, c'est un sujet sur lequel il faut que nous fassions collectivement des efforts. L'idée, c'est de dire, vous recrutez quelqu'un, il faut lui donner les moyens de travailler, même d'un point de vue économique. La situation actuelle est parfois un peu presque absurde, puisqu'on recrute des gens qui continuent à être des gens extrêmement brillants via des concours dont on a dit qu'ils étaient très sélectifs, ça c'est clair. Et ce qui est important, c'est aussi de leur donner un package pour pouvoir travailler. Et ce qui fait la différence entre les institutions françaises et les institutions étrangères les plus prestigieuses, c'est précisément cette capacité de finalement donner ce package d'entrée aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses. Et donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur les deux dimensions. L'aspect des rémunérations est réel, mais je pense que l'aspect des packages est au moins aussi important.
Mais est-ce qu'il y a un modèle français de recherche en fait, est-ce qu'on a une vraie spécificité, nous? Et est-ce que ce modèle-là est toujours d'actualité ou est-ce qu'il est un peu passé d'âge, Raphaël Rodriguez?
Oui, moi, effectivement, je pense qu'il y a une particularité en France. Alors, au-delà du fait qu'on parle des chercheurs à temps fonctionnaire qui font un tenure track, moi, je suis d'accord parce que c'est une sélection qui est indispensable. Et c'est vrai que heureusement, c'est pas la majorité, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui rentrent au CNRS et puis finalement la désillusion est assez rapide, et donc avoir un système de tenure track, ça permettrait d'éviter ça.
C'est vrai que le chercheur est fonctionnaire, en fait. Donc ça veut dire que vous êtes scotché.
Le chercheur est fonctionnaire, mais moi je pense que ça a un avantage en France. Je me rappelle de situations un petit peu compliquées pour certains collègues qui n'arrivent pas à pérenniser une recherche. Le fait d'avoir des ingénieurs de recherche et d'avoir des techniciens dans un laboratoire pour un chef d'équipe, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir la mémoire du laboratoire, ça permet d'avoir toute la mémoire des réactifs et des méthodes qui sont développées, ça permet de former quelqu'un qu'on va garder chez soi. Et je pense que c'est indispensable. En Angleterre, on va avoir un thésard, ça va être 4 ans, on va avoir un post-doc, moi j'y suis resté 7 ans, mais je sais que quand je suis parti, il y a une chute quand même, après que je sois parti, il y a eu un temps d'adaptation pour le chef d'équipe, et eux ne bénéficient pas de ce genre de poste, ni en Allemagne, ni en Suisse, et ni en Angleterre. Donc je pense que c'est vraiment une particularité, une force que la France a par rapport aux autres institutions.
Sophie ?
C'est l'un des défis de la future loi pluriannuelle de programmation, faire évoluer éventuellement les statuts, puisqu'en France, effectivement, le fonctionnariat fait que les postes ne sont pas très bien rémunérés et qu'il y en a de moins en moins. Tout le monde connaît cette tendance-là. On a parlé hier soir de CDIsation, c'est-à-dire des contrats qui seraient un peu différents. Est-ce que ça, c'est s'adapter au goût du jour ou c'est copier ce que font les autres ?
Ça existe déjà. Aujourd'hui, le CNRS peut, s'il le souhaite, et l'université, c'est pareil, recruter des gens en CDI. Ça a l'avantage de pouvoir un petit peu s'éloigner des grilles de la fonction publique.
Quelle raison, hier soir, face au président Macron, une jeune chercheuse de Brest a dit le contraire, qu'elle ne pouvait pas CDIiser son ingénieur de recherche qu'elle avait formé depuis 6 ans à un niveau tel qu'elle regrettait de l'avoir partir.
Alors, parce qu'en fait, on parle de deux choses différentes. Là, il y a dans les établissements de recherche comme le CNRS, vous êtes payé ou bien par de l'argent qui vient directement de l'État, ce qu'on appelle la subvention pour charge de service public, ou par des ressources extérieures. Et ce dont parlait la chercheuse hier, c'est un sujet qui ne fait pas consensus au sein de la communauté, c'est la possibilité de CDIiser des gens sur des ressources extérieures. D'accord, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et la jeune chercheuse hier disait, mais moi je ne comprends pas, j'ai régulièrement des ressources, je souhaiterais pérenniser mon ingénieur et donc je souhaiterais le CDIser, mais via des ressources externes. Et c'est, semble-t-il, d'après les premières discussions qu'on peut avoir autour de la loi, une possibilité qui devrait être offerte sur le modèle des CDI de chantier dans le bâtiment. Là, ce serait des CDI de projets scientifiques, mais encore une fois, c'est un sujet qui fait controverse. Et par exemple, les organisations syndicales sont assez contre, pour dire le moins, ce système.
Pardon, Sophie. Je peux y aller. Alors, Magali, qui est une chercheuse au CNRS, qui nous a écrit sur franceinter.fr et qui nous dit, malgré l'aide de 20 000 euros débloquée par le CNRS, on manque cruellement de moyens. L'impression d'assister à des funérailles de la recherche publique. Et je n'en peux plus de la bureaucratisation, nous dit-elle, bureaucratisation de la recherche. Redonnez-nous les moyens de travailler. Serge Haroche.
Oui, ça c'est un gros problème. Moi, je peux parler un peu de mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé dans la recherche, il y a fort longtemps, j'ai commencé au CNRS. Et c'était une époque où le CNRS m'avait donné les moyens de commencer. Il y avait de l'argent récurrent, il y avait de l'argent donné au laboratoire, il n'y avait pas de bureaucratie. C'était mon directeur de laboratoire, Jean Brossel, à l'époque, qui, souverainement, a décidé de me faire confiance et m'a donné l'argent qui me permettait de démarrer dans mon travail de recherche. Je n'ai jamais eu à écrire une demande de contrat jusqu'à mes 40 ans. J'ai commencé à devoir faire ça lorsque le système a changé, lorsque la globalisation de l'époque Reagan et Thatcher a été une période où, de transition, où des instituts comme le CNRS ont eu moins d'argent parce que la masse salariale a augmenté et où la recherche a commencé à se faire de façon quasi exclusive sur contrat. Pour moi, ça n'a pas été un problème parce que j'avais déjà acquis une certaine notoriété, j'ai pas eu trop de mal, mais je conçois que pour des jeunes chercheurs, ça peut être une situation extrêmement frustrante et ça les empêche de démarrer sur une recherche vraiment ambitieuse. Et économiquement, c'est également absurde parce que si on leur donnait les moyens de commencer, ensuite, ils auraient la possibilité d'émarger à des contrats de façon, avec une chance de succès beaucoup plus grande. Je pense en particulier aux contrats européens, qui sont très difficiles à obtenir. Si on n'est pas préparé, si on n'est pas capable de déposer un dossier solide, qui ne peut se faire que si, au départ, on a été aidé par l'institution qui vous a engagé.
Raphaël Rodriguez, pardon de vous ramener à votre jeune âge à chaque fois, mais vous qui avez expérimenté ça peut-être finalement assez récemment, qu'est-ce que ça veut dire au fond quand on dit qu'un chercheur doit d'abord aller débloquer de l'argent pour pouvoir commencer à travailler? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est terriblement chronophage? En quoi ça vous empêche de travailler? En quoi ça peut nous freiner? Et quand je dis nous, en quoi ça freine la recherche française que d'avoir cette difficulté à trouver de l'argent?
Alors c'est vrai que c'est difficile, mais moi je trouve qu'écrire des grants, paradoxalement, ça a quand même un avantage que je trouve
demande
majeur.
Demande de bourse.
Demande de bourse, c'est un avantage majeur, c'est que quand on écrit un projet de recherche compliqué, ça structure l'esprit. Et quand on veut vraiment avoir l'argent, on met tout ce qu'on a intellectuellement dans ce grant, et ça permet de voir assez rapidement les points où ça ne va pas marcher. Il faut vraiment faire un effort intellectuel pour maximiser ses chances d'avoir ce financement. Donc ça, c'est le point positif de devoir avoir à écrire des bourses.
Oui, des bourses. Et les points négatifs,
ouais. les points négatifs, c'est ce que vous venez d'évoquer, je pense, la quantité d'argent qui est donnée par rapport au financement en France. Je pense que c'est beaucoup trop d'efforts. Si on veut comparer, par exemple, une ERC qui s'élève à hauteur de 2 millions d'euros, moi qui me permet de vivre depuis les 5 dernières années, c'est des dossiers qui vont faire 15 pages. Allez, on va dire plus 10 pages, 25 pages. Ça permet vraiment de fonctionner. Donc, on fait un effort, mais on a de l'argent. Et pendant 5 ans, on est relativement tranquille. On a une sorte de récurrent pendant 5 ans, ce qui permet de s'adapter. Travailler sur 5 ans, ça permet vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'échouer pour pouvoir réussir plus tard. En France, les projets, souvent, ils sont splittés, ils sont séparés entre plusieurs équipes.
On ne peut pas avoir 2 millions d'un coup, c'est ça?
Je ne crois pas qu'il y ait d'agences de financement en France qui le permettent, alors qu'en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, et même en Italie maintenant, c'est pour dire, ça existe. Et le problème, c'est que je trouve que c'est un petit peu artificiel parce qu'on va demander à des équipes de se mettre ensemble pour écrire un projet ensemble. Je fais référence aux ANR, où souvent ça va être des projets déposés par 2 ou 3 personnes.
Agence nationale de la recherche. Ouais.
Voilà. Et on va donner, j'en sais rien, peut-être 300 ou 400 000 euros sur 3 ans à 3 équipes. Donc, vous faites le calcul, ça fait peut-être 50 000 euros. Mais ce qui va se passer in fine, c'est qu'il y a énormément de personnes finalement qui finissent par drifter parce que c'est presque impossible de faire ce qui est écrit dans un projet. souvent on trouve des choses qui sont différentes.
Par drifter, donc par sortir de leur projet d'origine, vous voulez dire?
Par sortir de leur projet d'origine, et ils finissent par, par avoir, je sais pas, une sorte d'arrangement où finalement ils vont trouver un moyen de publier quelque chose ensemble, mais c'est beaucoup trop artificiel par rapport à ce qu'on pourrait obtenir avec, avec des financements ERC. Et puis en plus, c'est trop court.
Antoine Petit, j'ai vu que vous vouliez intervenir. Je voudrais qu'on parle de publication après aussi, parce qu'en effet, visiblement, si on n'est pas le premier...
Très rapidement, je pense qu'aujourd'hui, les chercheuses et les chercheurs ont compris qu'il fallait écrire des propositions, des demandes. Le sujet n'est pas là. Le sujet est exactement celui qu'a dit Raphaël, c'est le montant de l'argent que vous obtenez. C'est-à-dire faire un projet, si vous obtenez 2 millions, alors quand il dit 2 millions, c'est 2 millions sur 5 ans. C'est-à-dire, et c'est pas de l'argent qui va dans sa poche, c'est de l'argent avec lequel il va recruter des doctorants, des post-docs, il va acheter du matériel. Là, il n'y a pas de sujet. Et c'est vrai que le système n'est économiquement pas très performant. Si vous écrivez une candidature ou un appel à projet, si vous répondez à un appel à projet et que vous récupérez pas d'argent, ou peu d'argent, ça c'est un système qui est absurde. Et c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, progresser. C'est, on a en France une Agence nationale de la recherche, une ANR, dont on a, dans les années récentes, baissé le budget. Et je pense que c'est pas une bonne idée. C'est où on a une ANR et il faut la doter fortement.
Mais ça sert à quoi? Pardon de vous le demander comme ça, mais techniquement, ça sert à quoi l'ANR, en fait? Mais
ça sert à sélectionner les gens sur la base de leur projet scientifique. Et lorsque vous faites un projet scientifique, il y a deux composantes qui jouent. Il y a votre CV, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait avant, et puis qu'est-ce que vous projetez de faire. Et ça, c'est un système qui est universel aujourd'hui. Mais où le bas blesse en France, c'est le fait que la hauteur des financements pour les projets retenus n'est pas suffisante.
Charles Laroche,
je voudrais faire un commentaire. C'est pas absolument universel. Les ERC sont extrêmement positifs. Je suis tout à fait d'accord que ça a été... La recherche en France n'aurait pas été possible sans les ERC qui donnent beaucoup d'argent. On parle de 2 millions et demi d'euros en 5 ans. Mais il existe des projets de recherche très ambitieux qui ne peuvent pas se limiter à une période de 5 ans. Et si vous comparez avec des pays étrangers, dans les grandes institutions étrangères, il y a des financements récurrents. Les directeurs des instituts Max Planck en Allemagne n'ont, à la limite, pas besoin d'ERC. Ils reçoivent une somme d'argent de l'ordre de 500 000 à 1 million d'euros tous les ans parce qu'ils ont été reconnus. On ne les juge pas sur ce qu'ils vont faire, on les juge sur ce qu'ils ont fait et sur les promesses que leur carrière passée laisse présager pour le futur. Et je pense que c'est ce qui manque. Il faudrait, dans le système français, davantage de crédits récurrents qui permettent à des chercheurs confirmés, d'abord aux jeunes chercheurs de démarrer, c'est ce qu'on appelle les packages de départ, et aux chercheurs confirmés de pouvoir travailler sur des projets ambitieux à long terme sans avoir à rebondir tous les 5 ans sur une ERC. Il y a le problème du traumatisme post-ERC qui se pose également. Quand on a été financé de façon extrêmement généreuse pendant 5 ans et qu'on se retrouve à la fin de ces 5 ans sans argent, ça pose également un problème.
C'est mon cas, dit Raphaël Rodriguez. Comme ça, on recommence à zéro à chaque fois, en fait. À chaque projet, c'est retour à la case départ un peu ou pas, quand même?
Disons que pour l'ERC, c'est particulier parce qu'il y a 3 format, il y a ce qu'ils appellent le starting grant, le consolidator grant et l'advance grant.
D'accord.
Et donc moi je suis...
Donc premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, pour le dire.
Selon votre niveau de seniorité.
Okay. Voilà, selon l'âge plus ou moins. Et donc moi le mien se termine dans un an et demi. Et le niveau advance, je pense qu'il faut avoir un nombre de publications largement supérieur à celui que j'ai aujourd'hui. Et donc la question se pose aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste en France avec... un train de vie scientifique que je dois réduire à la baisse de manière significative, ou alors est-ce que je privilégie la recherche et la science et que je pars dans un autre pays pour pouvoir travailler? Sachant que la science est universelle, alors que je publie en France ou que je publie en Allemagne ou en Angleterre, ça reste des publications qui resteront accessibles à tous. Et donc, c'est bien d'être un patriote et de penser au pays, mais à un moment, les questions se posent. Il y a
intéressant
des contraintes
dilemme,
qui sont
intéressant dilemme, en effet. Et vous choisirez quand, sérieusement?
J'ai déjà choisi.
Et
j'ai des offres d'emploi à, je dirais pas où, mais bon, dans les pays, c'est grosso modo, c'est en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Et pour l'instant, j'ai renoncé avec des salaires qui sont presque indécents. Difficile à refuser, mais je pense que c'est. Je pense qu'en France, on a cette capacité à faire du travail collectif. Je pense plus à la réussite collective qu'à la réussite individuelle.
Serge Haroche, il a l'esprit chercheur et chercheur français Raphaël Rodriguez, mais j'ai envie d'aller sur la marche du dessus. Comment on fait pour les retenir, ces jeunes gens-là?
Pour les retenir, il faut leur donner les moyens de travailler. Ils ont une ambition, ils consacrent leur vie à leur passion qui est la recherche qui est basée sur la curiosité. Et si on ne leur permet pas d'exercer leur passion, ou ils renoncent et ils font autre chose, et ils ne rentrent même pas dans ce système, ou... Ils cèdent aux sirènes de l'étranger, parce qu'il y a un moment où, c'est pas une question de salaire personnel, mais il y a un moment où le fait qu'on peut travailler, qu'on peut satisfaire son ambition à l'étranger, l'emporte. Je pense que c'est ça la grande différence par rapport, dans d'autres domaines en France, on sait que les salaires nationaux sont bien inférieurs à ce qui se passe à l'étranger, pour des infirmières, pour
des enseignants,
mais eux ne sont pas aussi mobiles. Le problème des chercheurs, c'est que ils peuvent s'en aller.
En effet, vous pouvez chercher n'importe où.
J'ai une autre expérience, même au niveau du Collège de France. J'ai été administrateur du Collège de France. C'est une institution qui propose des postes à des gens qui ont atteint un niveau de star international, vraiment senior. On a énormément de mal à remplir des postes en physique, en biologie, en chimie, parce que les institutions étrangères concurrentes, que ce soit en Suisse, aux États-Unis ou en Israël, offrent jusqu'à 10 fois plus pour installer un chercheur, un chimiste ou un biologiste. On n'a pas la possibilité d'entrer en compétition. Et c'est pas une question de rapport de 1 à 2 qui permettrait de jouer encore sur la fibre nationale. C'est un facteur tel que les gens ne peuvent pas refuser les offres qui leur sont faites à l'étranger. Oh. Et avec pas beaucoup d'argent, si on ciblait sur des postes d'excellence, on pourrait, avec quelques dizaines de millions d'euros, maintenir ou faire revenir en France une dizaine ou une douzaine de chercheurs de premier niveau par an, et ça ferait une grande différence.
Eh bien, je vais vous donner la parole dans un instant, Antoine Petit, mais pour enchérir sur ce que vient de dire Serge Haroche, on a Marie qui dit, pour comparer les salaires dans la recherche en France et aux États-Unis, je suis enseignant-chercheur depuis 20 ans dans une université française. Mon fils de 22 ans fait un stage de fin d'études dans un labo aux USA. Le montant de sa rémunération est le même que mon salaire. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter quelque chose parce qu'on parle beaucoup de passion, c'est réel, mais il faut être conscient du fait que là, on parle de chercheurs exceptionnels. Donc Serge Haroche, prix Nobel. Raphaël est trop jeune pour avoir encore le prix Nobel, mais Raphaël, c'est une star dans son domaine. Mm-hmm. Et donc, faut pas laisser croire aux gens que la seule chose qui nous meut, c'est on a des gens passionnés qui voudraient être payés pour assouvir leur passion. On a des gens qui sont au meilleur niveau international. Mm-hmm. Et donc, il y a une compétition qui est féroce pour attirer ces gens-là et les garder. Et donc, la question qui se pose, c'est une question de souveraineté pour la France et pour l'Europe. Est-ce qu'on veut que ces jeunes chercheurs ou les moins jeunes, ils exercent leur métier en France, en Europe? Où est-ce qu'on les laisse partir ailleurs? Et on a, encore une fois, j'insiste, des gens qui sont le top niveau international.
Et vous avez raison, il y a une vraie recherche française qui est dynamique, mais du coup, est-ce qu'on est capable de la conserver? Est-ce qu'on est toujours à ce même niveau si on a autant de difficultés à les conserver à la maison, ces chercheurs-là?
Alors qu'il y a une multitude de rapports qui nous annoncent qu'on a décroché ou qu'on est sur le point de décrocher en termes de qualité scientifique. Serge Haroche, c'est un de vos crédos, ça, de dire que si on continue comme ça, on est fichu.
Tout ce qu'on vient de dire va dans ce sens. Mmh. Il faut que le pays fasse un gros effort, pas quelque chose d'incrémental, vraiment un effort quantitatif et qualitatif pour résoudre les questions que nous avons.
Est-ce que vous l'avez chiffré, ça? Parce qu'effectivement, oui. Emmanuel Macron, hier, a parlé de cette loi pluriannuelle très bien, il n'a pas donné de chiffres. Vous l'avez chiffré, ça veut dire quoi, concrètement?
Ça veut dire une somme de l'ordre de 5 milliards d'euros de plus par an. Et 5 milliards d'euros, ça représente 0,2% du produit national brut, c'est-à-dire passage de 0,8 à 1% des crédits que l'État met dans la recherche. Parce que dans les fameux 3%, il n'y a que 1% qui vient des crédits d'État.
Je pense pour répondre à votre question, on n'a pas encore décroché aujourd'hui. Nous restons un grand pays scientifique, mais je crois que nous partageons la crainte de décrocher avec un phénomène.
Dans les classements.
On glisse un peu dans les classements. Il y a de plus en plus d'acteurs qui sont des pays scientifiques. Certains pays n'existaient même pas.
L'Inde a doublé, par exemple, la France en termes de publication il y a 4 ans déjà.
Oui, l'Inde est très grand pays. Le fait que l'Inde, qui a 1 milliard d'habitants, double la France, qui est 60 millions, et pas en soi, c'est complètement choquant.
Mais si on compare, moi j'ai lu des comparaisons sur, puisqu'on parlait de l'anniversaire du CNRS, les 80 ans du CNRS. Quand le CNRS est né, il n'y avait pas de publication ou très peu qui venait de Chine, qui venait de Corée, etc. Aujourd'hui, il y en a énormément. Il y a un vrai dynamisme dans ces pays-là aujourd'hui.
Ni Israël, ni Singapour, ni la Corée du Sud n'existaient. Donc c'est sûr qu'ils publiaient pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a plus d'acteurs, c'est clair. Et pour revenir sur les chiffres, je pense que le président Macron hier a donné un chiffre ou un objectif. C'est ce qu'on appelle la dépense intérieure de recherche et de développement, qu'on mesure en pourcentage du produit intérieur brut. Aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, la France est un pays qui stagne à grosso modo entre 2,2 et 2,22% de son PIB, alors que l'Allemagne a atteint les 3%. Et l'objectif qu'a annoncé le président Macron hier, c'est d'atteindre ces 3%, 1% venant du public et 2% venant du privé. Aujourd'hui, le public est à 0,78. Si on fait la différence, c'est la somme qu'évoquait Serge tout à l'heure, c'est 5 milliards d'euros. Il ne faut pas oublier que si, même si on arrive à 5 milliards d'euros, ce qui est évidemment une somme extrêmement importante qui nécessitera des choix de la part de notre pays, ça il restera la question de la dépense privée qui aujourd'hui est à 1,44% alors qu'elle devrait être, si on s'en fie aux objectifs de 3%, de 2%.
Il y a beaucoup de questions comme celle d'Émilie de Dijon à l'instant. Les travaux de recherche sont souvent abstraits, loin des préoccupations quotidiennes des Français. Quel est l'intérêt pour nous de continuer à financer une recherche désintéressée, dit-elle? Il faut expliquer, je crois, Serge Haroche, ce que ça veut dire que d'être chercheur, en quoi effectivement le long et le très long cours comptent. Et surtout que quand vous êtes planqué dans votre labo, à un moment ou à un autre, ça finit par servir à quelque chose.
Bien sûr, la recherche fondamentale qui est un des objets vraiment du CNRS, c'est une recherche au long terme, mais c'est une recherche qui est absolument indispensable pour que les applications et les découvertes et que les inventions puissent suivre. Mmh. Et on peut en donner des tas d'exemples. Tout le monde dans lequel on vit actuellement, tous les instruments qui ont révolutionné notre vie, qu'il s'agisse du GPS, du téléphone portable, des ordinateurs, des lasers, etc., ce sont des fruits de la recherche fondamentale en physique quantique depuis un siècle. Mmh. Et il y a eu un temps de maturation de plusieurs dizaines d'années entre la découverte fondamentale et les applications. Mais j'irai plus loin. La recherche, au-delà même du fait qu'elle est utile, je crois que la recherche est une dimension essentielle de la culture et de la civilisation. Il y a un besoin humain de curiosité, de comprendre le monde. Par exemple, le dernier prix Nobel de physique a été donné à deux Suisses qui ont découvert des exoplanètes. C'est complètement inutile, on n'ira jamais, c'est à des millions d'années-lumière de la Terre, on n'ira jamais, même s'il y a de la vie là-bas, mais c'est important de le savoir, et ça fait partie de cette recherche de l'esprit humain qui, depuis la Renaissance, a déplacé sans arrêt la position de l'homme. À l'époque de Copernic, l'homme qui était au centre du monde s'est rendu compte qu'il n'y était plus, et au fur et à mesure que la science progresse, on s'éloigne de plus en plus du centre du monde, notre position devient de plus en plus périphérique par rapport à tout ce qu'on voit dans l'univers, et c'est un apport philosophique, un apport à la connaissance qui, à mon avis, ne peut pas être chiffré. Il faut continuer dans ce domaine. La France a joué un rôle essentiel dans ce domaine depuis la Renaissance. Et on parlait de l'attractivité au XVIIe siècle, au siècle de Louis XIV. Les chercheurs du monde entier venaient en France. Huygens est venu de Hollande. Les Cassini, qui ont été les directeurs de l'Observatoire de Paris, sont venus d'Italie. La France était un centre de rayonnement dans le monde et un centre important. Je pense que la recherche est un des éléments du pouvoir et de la puissance d'un pays. Je pense que Macron y a fait allusion hier. On peut pas si on décroche en science, on décroche dans tous les domaines.
Il y a cette question de Patrice de la Meuse qui serait intéressante peut-être à déconstruire peut-être. Les sommes colossales versées au domaine nucléaire sont autant de fonds qui ne pourront pas bénéficier à la recherche sur les énergies vertes. Il y a aussi cette idée qui est probablement très largement répandue qui dit qu'on cherche pas dans le bon sens.
Ou qu'il faudrait choisir
En fonction, y compris des enjeux de société, le type de recherche que nous faisons.
Moi, je crois qu'en complément de ce qu'a dit Serge, les grands enjeux de société aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle, sont des domaines dans lesquels on a un besoin absolument énorme de recherche. Et donc, je pense que votre auditrice, là, tout à l'heure, se trompe. Mm-hmm. La recherche, aujourd'hui, elle s'inscrit, certes, dans le temps long, mais elle est en prise avec des problématiques très, très actuelles. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il faut savoir que les algorithmes qui sont utilisés en intelligence artificielle sont des choses qui ont été inventées il y a 30 ans. Donc, c'est pas né d'hier. Et donc, aujourd'hui, je pense que les chercheurs ont cette préoccupation qui est double. C'est à la fois, effectivement, de faire une recherche au meilleur niveau international, mais d'être capable de faire en sorte qu'elle nous permette à la fois d'appréhender les grands enjeux sociaux, mais aussi les grands enjeux industriels. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les innovations de rupture, ce qu'on appelle la création de start-up, le CNRS en crée une centaine par an, on a besoin d'une recherche qui est au meilleur niveau mondial. Et donc, investir dans la recherche, c'est pas investir dans une danseuse. C'est au contraire investir dans un domaine qui va permettre, encore une fois, à la France de créer des valeurs, de la valeur, de créer des emplois, mais aussi de traiter les grands enjeux sociaux comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure.
Est-ce que comment sommes-nous nous quand on passe de la recherche fondamentale à la science appliquée? Je pense que comment on fait pour se comparer à des énormes comme Google, à des mastodontes de ce genre-là qui derrière et qui ont des systèmes de recherche extrêmement développés, qui sont importants, qui pèsent, dans lesquels ils mettent de l'argent. Comment on peut faire face à ces monstres-là? Est-ce qu'on peut être compétitif face à ces monstres-là?
D'abord, Google n'a pas, pour le moment en tout cas, n'a pas d'étudiants, et c'est les étudiants que Google recrute, enfin les ingénieurs que Google recrute, il vient les chercher dans nos universités, dans nos centres de recherche. Et les gens qui sont recrutés chez Google, c'est vrai qu'ils sont extrêmement bien payés, mais ils ont quand même l'objectif de travailler pour Google avec des objectifs de beaucoup plus court terme que les chercheurs. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a une concurrence dont il faut tenir compte, mais mon inquiétude,
il y a
moi,
des travaux sur l'intelligence artificielle, etc., qui sont peut-être aussi à long terme y compris dans des boîtes de ce type-là, hein, non?
Enfin, bien sûr, mais encore une fois, ils ont besoin. Et c'est pour ça qu'ils essayent de... Pourquoi ils viennent en France pour travailler avec nous? C'est parce qu'ils savent que nous continuons à former des étudiants du meilleur niveau et que ces étudiants, ils sont formés parce qu'ils ont en face d'eux des professeurs, des directeurs de recherche de très bon niveau. Donc je pense que là c'est un acteur qui effectivement est important. Mais à mon avis, la concurrence, elle vient au moins autant des grandes universités étrangères que de centres de recherche privés.
Sophie, rapidement.
Oui, Raphaël Rodriguez, vous avez choisi la cancérologie. Est-ce que justement c'est parce que vous aviez un souhait de faire une recherche appliquée ou avec une finalité humaniste, ou vous vous retrouvez là par hasard?
Déjà, je voudrais souligner que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même. Maintenant, moi, je pense que j'ai de la chance dans ce que je fais parce que je peux à la fois faire de la recherche fondamentale, très fondamentale en chimie sur la réactivité des métaux. Et je peux appliquer cette chimie dans les cellules cancéreuses et essayer de comprendre comment cette chimie est mise à pied d'œuvre dans des processus de cancérogénèse. Donc moi, j'ai cette chance-là. Et par ailleurs, comme j'ai fait des molécules, et ça, c'est la base de ce que je fais, je peux aussi avoir la possibilité d'essayer de développer des produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, d'où les start-up que j'ai pu commencer à créer avec CNRS Innovation. Et donc moi, je suis à peu près sur tous ces niveaux-là, donc c'est...
Vous êtes le Rémi Bricat de la science fondamentale appliquée.
Non, mais je pense que c'est faisable.
Et entrepreneur.
C'est faisable.
C'est faisable.
Bah, il faut le faire.
Vous en êtes l'exemple.
On a beaucoup de questions. On s'est presque engueulé d'ailleurs, donc j'assume. Michel, vous avez raison, Michel. Pourquoi ne parlez-vous pas des sciences humaines et sociales, souvent bien moins financées, bien plus précaires? N'oubliez pas, nous dit Vincent, les sciences humaines, les fonds alloués à la sociologie, l'ethnologie, les langues sont encore faibles, si on compare notamment avec les sciences dures.
Je pense en tout cas, au CNRS, on les oublie pas, puisque les grands enjeux sociétaux que j'évoquais tout à l'heure, pour en prendre que deux, le changement climatique et l'intelligence artificielle, ce sont des domaines dans lesquels on a besoin précisément de coopération entre les sciences dites dures et les sciences humaines et sociales, dites parfois souples ou tendres. Donc on les oublie vraiment pas, c'est une composante absolument essentielle aujourd'hui du paysage français et du CNRS en particulier.
Oui, à ce sujet, je voudrais dire qu'il y a un pays dont on n'a pas parlé qui est la Chine. Quand vous parliez des mastodontes, la Chine met des sommes absolument gigantesques dans le domaine de la recherche, des ordres de grandeur de plus qu'en France. Mais la Chine a un problème, justement, dans le domaine des sciences humaines et sociales. La Chine n'est pas un pays libre, la liberté de penser n'y existe pas, et les sciences humaines et sociales en souffrent. Et je pense qu'il est impossible de faire vraiment de la recherche libre, de développer la créativité et l'inventivité des gens si on les bride sur ce plan. Donc je pense qu'on a un avantage sur la Chine, en Europe en général, qui est la liberté de penser. Et il faut profiter de cet avantage, il faut mettre les chercheurs français, les chercheurs européens en capacité de résister à la concurrence chinoise en jouant sur cet aspect. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut voir ce que la Chine en fait. Elle utilise l'intelligence artificielle pour contrôler la population du pays. Donc il y a un domaine éthique qui est en rapport avec les sciences humaines et sociales dont il faut tenir compte.
Et ce sera le mot de la fin, pile sur les bits. Merci beaucoup, merci vraiment à tous de votre présence ce soir. Merci à vos nombreuses questions, comme d'habitude sur France Inter, il est 20h.